Radio des Suds, la radio qui teste et qui proteste.
Qui teste et qui proteste.
Ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Non?
S'il fait chaud à Arles, jamais. L'été 2020 n'est pas en pente douce pour tout le monde. Le festival Les Suds Arles a réussi à proposer une édition plus légère dans des lieux qui se prêtaient à la distanciation sociale avec des musiciens qui aiment l'acoustique. Et c'est sur une nécropole que se sont tenus les concerts du soir. Nos invités dans cette émission seront les groupes Birds on a Wire, Cervantes, Balaké Sissoko et Vincent Segal. Tous les artistes faisaient leur baptême de concert de déconfinement. Alors, le trac, reconsidérer son métier de musicien, repenser les festivals, sauver la filière musicale. Il y a eu beaucoup de questions et quelques moments précieux. Nous sommes le 16 juillet sur le site des Aliscans à Arles et le duo composé de Rosemary Stanley et Dom Lanena, Birds on a Wire, monte sur scène. Bon voyage.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steer rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did it get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees?
Bonjour, je suis Rosemary Stanley. Je suis chanteuse avec Dom Lanena dans le projet Birds on a Wire.
Bonjour, c'est Dom Lanena. Je suis chanteuse et violoncelliste et avec Rosemary Stanley dans Birds on a Wire.
Jeudi 16 juillet.
Le moment précieux. Radio des Suds pour ne pas perdre le Nord.
Est-ce que c'était votre premier concert depuis le déconfinement ?
Oui, premier concert depuis le déconfinement.
Ouais. Qu'est-ce que ça fait comme effet ?
Eh ben, en fait, pour moi, c'était presque comme quand tu fais pas de vélo pendant longtemps et puis tu reprends un vélo et tu sais l'en faire, mais il faut retrouver un peu tes marques avant de reprendre vraiment confiance à 100%. Il y avait quelque chose d'assez frais. On connaissait le chemin, mais en même temps, il y avait quelque chose d'assez frais, quoi, dans le... du fait de pas avoir de pas être monté sur scène pendant plusieurs mois, il y a évidemment certains réflexes, certaines habitudes que tu retrouves au fur et à mesure sur le moment en fait, et qui sont, c'est vrai qu'on a rarement, enfin ça nous est déjà arrivé de pas faire de concert pendant 4 mois, mais c'est de pas pouvoir en faire, c'est différent, enfin je sais pas, c'était un autre rapport quand même, le fait de revenir sur scène après ces 4 mois, donc pour moi c'était de se redécouvrir, reprendre nos marques ensemble, et c'était assez chouette parce que ouais. Du coup il y a une certaine fragilité, en même temps on sait où on va, mais on redécouvre un peu aussi nos habitudes quoi.
Effectivement, c'est ce que dit Dom, c'est une remise en selle en fait quelque part, c'est une manière aussi de un peu de cette fragilité, elle permet de redécouvrir les morceaux aussi. C'est-à-dire qu'on est... parce que parfois quand on est en tournée, qu'on enchaîne les dates comme ça, on redécouvre pas tous les morceaux à tous les concerts.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'automatique,
ouais.
Qui là, tout d'un coup, on réfléchit vraiment et on est moins dans l'inconscient, quoi. On est plus dans quelque chose de prendre conscience vraiment de chaque note, de chaque phrase, de faire attention à des choses qui sont automatisées quand on est en tournée et qu'on joue plusieurs soirs de suite, où on est dans une autre émotion, on est dans quelque chose de différent. C'est pas moins bien, mais c'est juste différent, quoi. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on réévaluait un peu, on reprend conscience un peu de tout ce qu'on fait, et c'est une autre vision en fait du concert et des morceaux et de nos versions.
Juste, c'est une autre présence, ouais. C'est une autre qualité de présence en fait.
Le duo Birds on a Wire a sorti son 2e album Ramage ce printemps durant le confinement et présenté ce recueil allant de Forêt à Violeta Parra au public arlésien. Émotion palpable.
Je pense qu'on avait un track, ouais. D'ailleurs on a fait un truc qu'on fait jamais, c'est qu'on a chanté avant de monter sur scène, toutes les deux en mode déconnant en fait. On avait besoin de sortir, je pense, nos peurs, parce qu'en fait, bizarrement, il y avait une attente aussi du public en fait. Je crois que les gens étaient, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a comme un besoin qu'il se passe quelque chose. Comme moi, je suis très contente de pouvoir refaire des concerts, et nous aussi, c'est un plaisir pour nous, et c'est. Et il y avait quand même cette angoisse, il fallait être à la hauteur de cette attente, quoi. Voilà.
C'est comme ça que vous vous chauffez en coulisses,
non.
Alors, je pourrais me faire un exemple de ce que vous avez fait juste avant de monter sur scène.
Oh non.
Comment ça? Non.
Non.
Bon, d'accord.
Ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Non. Cette chanson tombe à point. On va s'imaginer... quelque part, pas loin, derrière nos fenêtres. Si ça vous rappelle quelque chose. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Et sur la ville, il fait trop chaud. Mes femmes sont assoupies et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ah, si sort un jour paraît une flamme à nos yeux, à l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu, l'amoureux l'appelle l'amour. Diane
Directeur des Sud Arles.
Le festival Sud Arles est né en 96 avec Marie-Josée Justamont. Depuis 2 ans, Stéphane Krasniewski est le nouveau directeur artistique. Il nous explique comment on conçoit un festival en 3 semaines en période de pandémie. Hashtag Masterclass.
C'est un format très spécial puisqu'on a réinventé le festival en 3 semaines avec une équipe réduite également et dans des lieux qui ne sont pas habituels avec des artistes qui devaient présenter la particularité, la double particularité d'être représentatif de ces musiques du monde tout en étant résident en France puisque les frontières sont toujours fermées. Alors, en mi-mai, on a annulé l'édition telle qu'on l'avait imaginée et parce que beaucoup des artistes qu'on avait programmés ne pouvaient pas venir parce qu'on ne pouvait pas occuper les lieux de grande capacité, etc. Donc on est reparti quasiment à zéro, même si dans l'édition telle qu'elle existe là, telle qu'on l'a remontée depuis 3 semaines, il subsiste des noms. C'est le cas de Rosemary Stanley qui a joué hier avec Birds on the Wire. On ne devait pas l'accueillir avec Birds on the Wire, on devait l'accueillir sur une création avec Pierce Faccini. C'était le cas également de Souko qui devait nous faire une sieste musicale, qui nous a fait un très joli concert hier à l'espace croisière. Voilà, donc il subsiste certains noms de la programmation originelle, mais assez peu. On a dû repartir réellement sur des bases totalement nouvelles.
Quel est le moment que vous avez préféré au concert de Birds on a Wire qui a démarré les moments précieux?
Les premières notes. C'est l'entrée sur scène, mais oui, c'est l'entrée sur scène. Ça fait tellement longtemps qu'on attend de réentendre la musique en live et que tant que les premières notes n'avaient pas résonné, c'était pas réel, c'était pas concret. Donc effectivement, hier, quand tout le monde s'était assis et que le concert a démarré, c'était magique, c'était extrêmement, extrêmement fort.
Est-ce qu'il y a eu un morceau en particulier qui vous a touché?
Alors j'avoue que dans le nouveau répertoire de Birds on Wire, il y a Which Side Are You On qui me touche particulièrement. Ce chant syndicaliste écrit par un fils de mineur, il est pour moi extrêmement puissant, et la voix de Rosemary et la musique de Dom évidemment, mais ce morceau a une puissance évocatrice qui me touche beaucoup.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on?
Be with you, good fellow. for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man?
Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement ?
Pas grand-chose. Bah, on était en pleine tournée, donc on s'est arrêté, on s'est un peu reposé. Moi, je suis restée avec ma fille, voilà. Et puis, on a pas fait grand-chose. On a attendu un peu de voir ce qui se passe, et surtout pas écrit, pas créé, pas joué de musique sur Internet. Moi, j'étais pas du tout dans cette énergie-là.
Il y a beaucoup d'artistes, alors je ne sais pas s'ils se sont sentis obligés ou si parce qu'ils étaient anxieux ou qu'il fallait qu'ils s'occupent, qui ont précisément occupé les réseaux à jouer énormément. Vous, je ne sais pas si vous défendez l'idée de ne rien faire et que c'est aussi une manière de résister à sa manière. Cette insistance, cette injonction à faire des trucs alors que personne ne peut rien faire, ça, je trouve ça vraiment très pénible. Si on a envie de rien faire, si on a envie d'être déprimé et de regarder et de bailler aux corneilles, c'est un droit.
Moi, je suis complètement d'accord. En fait, c'est compliqué. Moi, je n'étais pas du tout dans cette énergie-là. D'abord, je pense que la peur du vide, bon voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont peur du vide. Et puis, ce truc de penser qu'on est absolument indispensable au monde, voilà, je trouve ça extrêmement prétentieux en fait, au bout d'un moment, de se dire le monde ne peut pas se passer de mon morceau que je vais faire, que je vais absolument envoyer tout de suite. Alors, évidemment que j'ai regardé un peu ce qui s'est passé et qu'il y a eu des moments. J'ai trouvé qu'il y avait des moments chouettes, les petits concerts que vous avez faits. Enfin, il y a eu des moments, évidemment, que c'était agréable, mais il y a un moment, pour moi, c'est pas ça. En fait, pour moi, c'est pas ça la musique. Pour moi, regarder des tableaux à travers un écran, ce n'est pas voir une œuvre d'art. Voilà. Pour moi, un concert, c'est pas sur Internet. Voilà.
Bah moi, c'est pareil. J'ai une fille. Je me suis occupée de ma fille.
Oui. Et je pense que c'est des gens qui n'ont pas d'enfants.
Oui.
En plus. C'est-à-dire que quand vous avez un ou deux enfants à la maison,
c'est impossible.
Je veux dire, vous n'avez absolument pas le loisir, le temps. Vous avez quelqu'un qui s'agrippe à vous, enfin, surtout quand ils sont petits, qui s'agrippe à vous et qui sont bien contents de retrouver la fusion. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Hein. Mais je pense que, enfant, pas enfant, je ne suis pas sûre que j'aurais fait quelque chose, quoi qu'il arrive.
Bah, moi, j'ai quand même réussi à m'organiser pour faire du violoncelle et faire un peu de musique, mais pour moi, vraiment, j'ai travaillé mon instrument, j'ai essayé de faire un peu, d'écrire un peu des morceaux, avancer un peu dans mes choses personnelles, mais c'est vrai que bon, j'ai fait un tout petit concert, ça a été un calvaire à organiser, et j'ai dit bon, je vois, allez, c'est trop compliqué. On arrête là les aventures sur Internet. Ouais, c'était pour festival. Je reste à la maison. Enfin, dans l'absolu, c'est très chouette, quoi. Mais en fait, enfin moi, avec une fille qui H24, c'était juste très très compliqué, quoi. Elle avait 2 ans et demi. Ça me semblait insurmontable. Mais après, c'est vrai que les artistes dont je suis fan, j'ai regardé les lives qu'ils ont fait.
Pierce,
j'ai regardé un petit peu, ouais. Mais moi-même, faire des lives, j'ai fait celui-là parce que j'aimais bien le festival, il y avait plein d'artistes que j'aimais bien, je trouvais que c'était chouette de faire quelque chose, mais je me voyais pas du tout faire quelque chose de régulier toutes les semaines dans mon salon. Je voyais pas trop l'intérêt en fait, je voyais pas ça comme indispensable pour les gens de me voir en pyjama en train de jouer dans mon salon. Alors que bizarrement maintenant je trouve ça assez émouvant d'en voir d'autres artistes, je sais pas,
Votre album Ramage est sorti au moment de la Covid. On n'était pas encore confiné, mais l'album sortait. Je sais qu'on avait rendez-vous à RFI, vous deviez faire une session live chez nous. Tout a été annulé. Alors, comment votre maison de disques, ou comment vous réfléchissez la promotion? Quelle est la stratégie pour faire en sorte que cet album vive, peut-être vivre un an ou deux de plus, hein, je ne sais pas.
On a toujours fait sur la longueur. Notre premier disque, qui est sorti en 2014. On n'a pas eu une promotion d'enfer au moment où c'est sorti. On a fait un peu de promo et puis surtout, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, beaucoup fait de concerts. Et le disque, il a vécu pendant quand même 5 ans, enfin jusqu'aujourd'hui. Il vit toujours, en fait. Voilà, il va vivre sa vie à sa façon, en fait. Il faut s'adapter au contexte.
Les concerts, il n'y en avait pas beaucoup, puis il n'y en aura pas forcément énormément. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez vous débrouiller?
À la base, on en a beaucoup de prévus. Après, c'est sûr qu'on ne sait pas s'ils auront lieu.
On a eu beaucoup d'annulations. On a eu à peu près une vingtaine de concerts qui ont été annulés. On en a pas mal qui ont été reportés. Après, on repart en tournée à l'automne-hiver. Après, on n'est pas voyante, on ne sait pas trop comment tout ça va tourner non plus. Mais c'est vrai que, en fait, quelque part, ce qu'on se dit avec Dom depuis le début, de toute façon, c'est qu'on n'est pas pressé. Donc, on a déjà tourné, avant de faire ce disque, on a quand même tourné au moins 2 ans. On peut tourner encore 2 ans, 3 ans. Comme on tourne pas en continu sur le même projet, il y a toujours 3 mois dans l'année qu'on consacre justement au projet. Mais c'est vrai que si ça s'étale sur quelques années, c'est pas très grave.
Petit souvenir pour ceux qui seraient nés aux alentours de 1975.
Est-ce qu'il y en a-t-il ?
Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante no embigo, cuidado pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro é uma lagoa e ela que eu vou me banhar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre.
Marie-Josée Justamont, je suis la présidente du Festival des Suds à Arles. Le festival Les Sud-Arles est connu pour son discours engagé, un discours qui, pour la présidente Marie-Josée Justamont, est le propre de la mise en valeur de la diversité. Trois axes, toujours, création, transmission et action culturelle. L'édition 2020, bien sûr, était inédite, avec beaucoup de musiciens qui sont passés de l'autre côté du miroir, Manu Dibango, Tony Allen, Idir. Marie-Josée se souvient.
Celui pour qui je crois ça m'a fait le plus d'effet, c'est Idir. Idir, il était ici, il était notre invité pour la... C'était la troisième édition, si je me souviens bien. Voilà, c'était il y a vraiment longtemps. Lui et Rachida, voilà, double plateau. Bon, c'était quand même pas rien. Hein. Voilà, donc là, c'était l'Algérie, c'était le Maghreb. C'est, mais côté aussi, côté Kabyle, bien sûr, c'était quasi complet. Alors que c'était encore une fois les tout débuts du festival, beaucoup d'émotions, un partage. On avait un public beaucoup plus diversifié que maintenant au théâtre antique, ce qui est très compliqué à avoir maintenant.
À quoi ressemble le public aujourd'hui ?
C'est un merveilleux public, mais qu'on le veuille ou non, ça s'est énormément boboisé. Si on regarde les photos des premières années, ça n'avait rien à voir. On avait vraiment, j'ose employer le mot pour moi, il n'est pas du tout négatif. Toutes les communautés, c'est vrai. Enfin, moins la communauté africaine, parce qu'elle est très peu présente à Arles. Hein. Mais en tout cas, la communauté d'origine algérienne et marocaine, où était fortement présente. Mais ce n'est pas une question du tout de communauté. C'est une question de classe sociale. Un point, c'est tout, réellement. C'est la faute à personne, hein. C'est juste l'évolution des choses. Arles a résisté plus longtemps que les autres villes parce que c'est un village. Mais à un moment donné, le milieu populaire n'habite plus le centre-ville. Le milieu populaire, au début, on l'a quand même retrouvé aussi sur les scènes gratuites, etc. Et là, même plus, on ne le voit plus en centre-ville. Il n'est plus là.
C'est un problème de transport ?
Même pas, même pas. C'est vraiment une scission. Et c'est pas un cas arlésien du tout, comme je dis, c'est arrivé plus tard. On arrive à recréer du lien, mais ça c'est vraiment parce qu'on est présent nous, toute l'année dans les quartiers, par exemple, ou les villages de la grande commune d'Arles. Hein, c'est la plus grande de France, c'est particulier quand même Arles. Et c'est très pauvre justement aussi à cause de ça, parce que c'est la plus grande commune de France.
Qui teste et qui proteste.
Au corps à corps, c'est un appel au corps à corps, c'est un appel amoureux au corps à corps.
C'est du côté des troubadours et du Moyen-Âge que l'on débusque le trio Cervantes. Le Cervantes, c'est un style contestataire avec des textes de poètes occitans. Manu Théron.
Pour la plupart des princes et des seigneurs, hein, des troubadours qui n'étaient pas des troubadours itinérants du tout, qui étaient des troubadours au sens du troubar, des gens qui trouvaient de la poésie. Et donc, ce sont des textes qui, la plupart, sont sur la guerre. Et sur la nécessité de ne pas faire n'importe quoi quand on fait la guerre et de ne pas brandir la guerre n'importe comment et n'importe où. Et c'est marrant parce qu'on avait pris cette décision de faire ces textes il y a un an et est arrivée une guerre entre-temps contre un virus, une guerre contre un ennemi invisible. Et là, on est dans des guerres avec des ennemis très visibles au Moyen-Âge et des ennemis qui, entre eux, vont directement au rapport charnel, au corps à corps, pour se découper la tête et les bras. Mais c'est d'abord un rapport charnel entre des puissants. La guerre est un moment d'effusion de bestialité, mais aussi cette effusion de bestialité, elle est provoquée par du ressentiment, par de la haine, par plein de choses, mais pas souvent ni par de la stratégie, ni par de la traîtrise, ni par de la félonie, mais par l'envie d'en découdre devant les yeux du monde et devant le regard du Très-Haut, du Tout-Puissant du Moyen-Âge. D'en découdre devant lui pour qu'il donne raison à celui qui sera le plus fort. Et là, on a une conception de la guerre qui est une conception charnelle et qui n'est pas une conception froide comme aujourd'hui. Et du coup, les guerres de l'époque faisaient beaucoup moins de morts qu'aujourd'hui parce que les seigneurs se battaient entre eux. Mais une fois qu'ils étaient morts, la Pietà et nous autres pauvres fantassins, on n'avait plus rien à faire, on rentrait à la maison. Tandis qu'aujourd'hui, on n'en voit que la Pietà, ils se battent entre eux et on tue les civils. Donc on fait beaucoup plus de morts aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc du coup, cette bestialité, elle fait partie de l'humain. Ils l'acceptent en eux comme faisant partie de l'humain. Ils n'ont pas de pudeur ou de froideur à dire non, nous on protégera tout le monde, on sera... Non, c'est pas vrai. Eux, ils acceptent leur bestialité, ils acceptent leur part de cruauté, ils acceptent leur part d'inhumanité aussi, de la mettre en jeu, mais ils l'acceptent parce qu'ils connaissent leur humanité. Et donc voilà, c'est sur ces textes-là qu'on a décidé de travailler, parce que pour nous, ils sont vifs, ils sont vivaces même. Et même si certains sont très sanglants, ils proposent une vision du conflit, qui est pour moi une vision, je dirais pas saine, mais une vision ouverte et une vision humaine du conflit. On accepte le conflit comme faisant partie de l'humain. Et on ne le refuse pas en allant se cacher derrière des faux semblants ou derrière des stratégies, derrière des félonies ou des traîtrises. Armi peschien los ardamur, que non tol manjar ni dormir, ni sempre dura ni calor, ni non badai ni non sospir, ni balde ne tanagi. Ni su conquits, ni su cucciats, ni su dules, ni su inats, ni non lodi messaggi. Ni su trahis ni enganats, que partis men su amorosats.
Les résidences d'artistes sont l'un des moments forts du festival Les Suds à Arles. On retrouve Cervantes en ville, dans l'ancien cloître Saint-Césaire, et c'est sous les yeux du premier évêque d'Arles que Étienne Gruel, Grégory Dargent et Manu Théron travaillent leur répertoire.
Alors on a travaillé 5 morceaux pendant la résidence, tous ne sont pas prêts. On a plutôt travaillé dans une forme de laboratoire et on fixera ça normalement en janvier prochain. Donc on se laisse le temps aussi de laisser mûrir ces choses-là en nous, parce qu'on ne veut pas être pris par une pression qui n'appartient pas à la, enfin, qui n'est pas en accord avec la façon dont on travaille habituellement. Donc on laisse les choses mûrir et aujourd'hui on a fait une étape de maturation.
C'est à cette époque-là qu'il est remonté d'Andalousie, hein, celui-là. Ouais, nous, avec Manu, dès le début, on se posait la question. Lui voulait vraiment travailler avec Duhoud et vraiment en se posant la question de qui étaient les gens à l'époque qui écrivaient ces textes, qui les chantaient et quels étaient les échanges culturels. Et quand on voit où est l'Occitanie au XIIe siècle et quand on voit où était l'Andalousie musulmane, à cet endroit-là, on dit qu'on a du mal à croire qu'il n'y ait pas eu quelques échanges. De toute façon, le cheminement du Oud dans la géographie est très clair. C'est-à-dire qu'il était en Andalousie, après il est remonté, et par des problèmes de prononciation, le Al-Rud est devenu le Lut, c'est le même mot, et du Lut, on est arrivé à la guitare. Donc de toute façon, ce cheminement est assez logique, et même en retrouvant certaines inflexions, en se posant des petites questions, sans rentrer trop dans la musicologie, sur le tempérament des musiques, je veux dire, on n'est pas très très loin du quart de ton, on n'est pas très très loin de ces choses-là, c'est-à-dire, après, sur 800 ans, 1000 ans, les choses se sont caractérisées, beaucoup, mais moi je pars du principe où, quand un artiste pouvait rencontrer un autre artiste, il faisait déjà ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire à un moment, vas-y, fais-moi essayer ton truc, qu'est-ce que c'est ? Et que les échanges se sont faits comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très très naturel avec Manu de déjà envisager les choses, ou cette question Orient-Occident, ou je ne sais pas, le Nord-Sud, enfin ces schismes qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir, en fait se dire, ouais, mais en fait la question ne sera pas là. Et quand je prends moi les textes de Cervantes, du premier album, l'ennemi est souvent plus au nord que ça, quoi. C'est-à-dire on prend les poèmes dont il parle, il y a un grand problème avec l'Église, en tant que pouvoir politique, grand problème avec les Anglais, grand problème, mais voilà, les voisins du Sud, en fait, moi, dans ce que j'ai vu de ces textes-là, il n'y a pas autant de haine vers le Sud que vers le Nord. Et ça, c'est aussi intéressant de voir qu'à un moment, cette région-là, qui était une région forte, magnifique, créatrice, culturellement vraiment impressionnante, avait plus des problèmes avec le Nord qui tentait de l'annihiler d'une certaine manière qu'avec les voisins d'en bas, quoi. Et donc moi, ça m'aide à réfléchir, ça fait plaisir de se dire ça dans nos frontières actuelles de ce qu'est notre pays, de se dire, ouais, bon, en fait, il y avait quand même une grosse partie qui était en train de se dire, ça a l'air sympa ce qu'il y a en dessous.
Dios, quién podría ni du monde.
Manu Théron, est-ce que le concert ici à Arles, c'est le premier que vous faites depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, où vous avez pu passer à travers les gouttes du confinement?
Oui, ça doit être le premier. Ça doit être le premier. J'ai trouvé que c'était pas non plus une libération, ce moment-là. C'est surtout un moment pour nous de reprise, de retrouvailles avec une normalité qui est celle de notre métier. Et c'est aussi une retrouvaille avec une certaine décence, une certaine façon d'envisager la musique, mais la culture à plus grande échelle, d'une façon structurelle dans la vie de notre pays, dans la vie de la République. La culture est essentielle, elle fait partie vraiment des éléments qui construisent et qui structurent la société, et elle a été négligée comme si elle était juste un élément de divertissement. Et je pense qu'on retrouve aussi cette fonction-là de structurer, même économiquement, un pays, puisque il y a des endroits où il y a des grands festivals comme Arles ou comme Avignon. C'est essentiel que la culture s'y produise, parce que ça fait partie de l'économie. On a été un peu dégagé du processus de retrouvailles avec la normalité, comme si les artistes étaient des gens capricieux qui voulaient en faire qu'à leur tête, etc. Il y a même eu une apparition du président en bras de chemise avec son ministre déguisé en stagiaire qui évoquait des choses d'une façon un peu désinvolte, assez méprisante de mon point de vue. Ben, une ignorance de ce qu'est la culture dans ce pays. Et donc pour moi, de retrouver cette fonction structurelle, c'est retrouver la normalité et c'est retrouver la décence de mon métier. Et c'est là que c'est essentiel.
Quand toute la France et certains autres pays du monde, parce qu'on n'a pas tous vécu de la même manière, en tout cas pas en même temps, pendant le confinement, est-ce que votre emploi du temps, est-ce que votre vie a été fortement impactée ou finalement c'est un peu comme ça l'année?
Non, pas trop. Moi, je ne fais pas partie des artistes qui ont dû courir après des emplois précaires. On ne m'a pas envoyé planter des fraises ou les ramasser comme certaines personnes. Et puis surtout, je crois que réellement, il y a des catégories de la population qui ont beaucoup plus souffert que des artistes comme nous, des retombées économiques de la crise sanitaire. Donc, je pense que nous, on a été relativement protégés. Et on est encore protégé par la prolongation du statut. Donc c'est pas vraiment à ce niveau-là que ça se juge. Après, beaucoup d'artistes sont dans des situations précaires depuis très longtemps. Notre travail est un travail précaire. Hein, l'intermittence, c'est une précarité. Mais c'est une précarité qui n'a pas été mise à mal comparée à d'autres précarités, notamment toutes les précarités liées aux économies parallèles, qui sont très nombreuses à Marseille, et où là on a vu vraiment des gens qui sont tombés dans une misère noire. Ce qu'il faut penser à réparer dans cette société, à dire qu'il faut réparer, ben c'est justement tout ce qui a été fragilisé par 20 ans de libéralisme sauvage.
Non de mini d'outra non d'amour ni de juve, ni de renal, que n'en su trobat sentir-me, sus un chivar. Non sai caldi sam suina ni sui alegres niras ni sui estrani ni sui piras ni non pesca che nai si fu de noi fadas sobre um pecado. Não sei como se em dormir, nem curam bem somno mudir. Per pau només d'un cor partits tinc del coral que no m'ho presen a solits per sa marxa. Non sai de qui e trametra il lua selu che l'un trametra per altri l'aive zangia che trameses del cielo estu la contracla.
C'est la fin du premier volet de la 25e édition des Suds à Arles. La suite, c'est demain avec d'autres invités, Vincent Segal, Balaké Sissoko, Gaspard, Smith et DJ Big Bouddha. Je vous dis à plus tard. Merci.